Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Oui, chers amis de Radio Présence, nous avons pris du temps pour commenter et lire et commenter la magnifique élégie de David à la mort de Jonathan, son ami, et on a pris du temps pour voir l'importance dans nos vies humaines aussi de l'amitié, à côté de l'amour, à côté du compagnonnage, et notamment pour souligner l'importance de la tendresse dans nos vies, dont nous avons tous besoin d'une manière ou d'une autre, et ce qu'il faut apprendre à découvrir, et à gérer et à transmettre. Nous continuons la lecture du livre second de Samuel, du second livre de Samuel, et nous arrivons au chapitre, je préciserai tout à l'heure de manière exacte où nous en sommes. Donc, la fin du premier livre de Samuel et le tout début du second ont raconté la mort de Saül et Jonathan et constituent le centre émotionnel de l'histoire de David, le moment clé où se révèle la grandeur d'âme, d'une part, et la délicatesse de sentiment du héros, qui est David. Cependant, le véritable sommet de la geste davidique, la geste, c'est une grande histoire, est encore à venir. Il se situe dans l'avènement royal du fils de Jessé sur tous les Israélites au terme de péripéties sanglantes de la succession de Saül et plus encore dans la consécration par Dieu de sa royauté exprimée par la prophétie de Nathan sur la pérennité de sa dynastie. Là, nous en avons parlé, c'est là que c'est le chapitre 7e du deuxième livre de Samuel. Et depuis son apparition lors du combat singulier contre Goliath, c'est là qu'est apparu l'entrée en scène, si on peut dire, de David dans l'histoire, c'est au premier livre de Samuel, cela. L'étoile de David ne cesse de monter dans le ciel des hommes et dans celui de Dieu. Dans le ciel des hommes, parce que c'est d'abord dans le ciel de Dieu. L'étoile, vous savez, l'étoile de David, malheureusement, lors de la dernière guerre mondiale, on savait ce que cela signifiait, qu'est-ce qu'elle marquait les Juifs. Il apparaît d'emblée dans l'histoire, nous l'avons vu, David comme un homme de foi et comme un homme de cœur, tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard de Saül lui-même et de Jonathan. Cette étoile est celle que Balaam, fils de Béor, prophète malgré lui et homme au regard pénétrant, comme dit le chapitre 24e du livre des Nombres, que ce prophète malgré lui a vu poindre dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, vers Jéricho, au moment où le roi Balak voulait le voir maudire ces Hébreux montés d'Égypte et qui étaient en route vers leur terre promise. Menacé d'être occulté par le premier roi d'Israël, à qui le héros fait une ombre évidente, l'astre royal a connu les éclipses du séjour forcé au désert de Juda, mais son ascension est irrésistible, comme le chante le quatrième oracle de Balaam, précisément. Le voici, au chapitre 24e du livre des Nombres, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir, des anciens noms de Dieu. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. » Et dans l'Ancien Orient, l'étoile est un signe divin. Elle marque l'avènement d'un roi divinisé. Et malgré les troubles des passions humaines, Dieu poursuit son dessein de donner à David la royauté, de stabiliser sa dynastie, pour qu'advienne un jour le Christ, roi Messie, fils de David. Et vous savez, l'étoile qui s'est levée en Orient et que les mages ont suivi pour qu'il vienne apporter leur hommage ou leurs hommages aux petits enfants nés à Bethléem. Le roi Saül est mort sur les monts de Gelboé. La faveur populaire porte la couronne à David. Au moins confusément, ce dernier sait, depuis son onction royale, dont parlait le premier livre de Samuel au chapitre 16, et savait quelle était sa destinée, devinée par Saül lui-même, avec la clairvoyance de la jalousie. Et même si David n'a pas brigué la royauté, même si les événements l'ont porté peu à peu vers la couronne, il semble bien que le héros soit allé dans le sens de ce qui l'attendait. Est-ce que c'était le sens de ce qu'il attendait? C'était autre chose. David était doué. Lui-même ne pouvait l'ignorer. Les dons de Dieu étaient actifs en lui. Sans se pousser, il sentait que Dieu lui réservait un rôle privilégié. Et par une sorte d'intuition profonde ou de pressentiment obscur, il est possible de savoir, entre guillemets, à l'avance qu'une certaine mission vous attend, ou peut vous attendre. Est-ce alors de l'ambition? Peut-être, à condition de se souvenir que l'ambition n'est pas d'abord, ni toujours, un défaut. Et en effet, nous allons y revenir, mais ambire en latin, c'est aller alentour. C'est aller, irer, c'est aller, et amb, c'est le mot qui signifie entourer. Donc aller alentour, aller autour, entourer, solliciter. Et l'ambition est l'ensemble des démarches que l'on peut faire pour obtenir une place honorable. Par exemple, quand quelqu'un veut être à l'Académie française, il faut qu'il ait rencontré tous les immortels, et puis se fasse admettre par eux, ce qui demande du temps et vraiment du doigté. Par exemple, il n'est pas immoral d'entreprendre une campagne électorale, à condition que la fonction pour laquelle on se présente soit envisagée sous l'angle du service. Nous allons revenir bientôt aux élections municipales, nous savons que ce n'est pas simple du tout. Il faut en outre que les moyens utilisés pour ces tournées, et notons que c'est des tournées, c'est le sens premier d'ambition, c'est entourer, aller à l'entour, et à condition que les moyens utilisés pour ces tournées soient honnêtes. Donc l'ambition n'est pas une mauvaise chose, mais à voir ce que nous allons voir la prochaine fois.